Chapitre 1. Plus de 2 mois s'écoulèrent avant que des Hyacinthe pût s'immerger dans le silencieux repos de sa maison de Fontenay. Des achats de toutes sortes l'obligeaient à déambuler encore dans Paris, à battre la ville d'un bout à l'autre. Et pourtant, à quelle perquisition n'avait-il pas eu recours? À quelle méditation ne s'était-il point livré avant que de confier son logement au tapissier? Il était depuis longtemps expert aux sincérités et aux faux fuyants des tons. Jadis, alors qu'il recevait chez lui des femmes, il avait composé un boudoir où, au milieu des petits meubles sculptés dans le pâle camphrier du Japon, sous une espèce de tente en satin rose des Indes, les chairs se coloraient doucement aux lumières apprêtées que blutaient les toiffes. Cette pièce où des glaces se faisait écho et se renvoyait à perte de vue dans les murs des enfilades de boudoirs roses, avait été célèbre parmi les filles qui se complaisaient à tremper leur nudité dans ce bain d'incarnat tiède qu'aromatisait l'odeur de menthe dégagée par le bois des meubles. Mais, en mettant même de côté les bienfaits de cet air fardé qui paraissait transfuser un nouveau sang sous les peaux défraîchies et usées par l'habitude des céruses et l'abus des nuits, il goûtait pour son propre compte, dans ce languissant milieu, des allégresses particulières, des plaisirs que rendaient extrêmes et qu'activaient en quelque sorte les souvenirs des maux passés, des ennuis défunts. Ainsi, par haine, par mépris de son enfance, il avait pendu au plafond de cette pièce une petite cage en fil d'argent où un grillon enfermé chantait comme dans les cendres des cheminées du château de Loups. Quand il écoutait ce cri tant de fois entendu, toutes les soirées contraintes et muettes chez sa mère, tout l'abandon d'une jeunesse souffrante et refoulée, se bousculait devant lui et alors, aux secousses de la femme qu'il caressait machinalement et dont les paroles ou le rire rompaient sa vision et le ramenaient brusquement dans la réalité, dans le boudoir à terre, un tumulte se levait en son âme, un besoin de vengeance, des tristesses endurées, une rage de salir par des turpitudes des souvenirs de famille, un désir furieux de panteler sur des coussins de chair, d'épuiser jusqu'à leur dernière goutte les plus véhémentes et les plus âcres des folies charnelles. D'autres fois encore, quand le spleen le pressait, quand par les temps pluvieux d'automne, l'aversion de la rue, du chez-soi, du ciel en boue jaune, des nuages en macadam l'assaillaient, il se réfugiait dans ce réduit, agitait légèrement la cage et la regardait se répercuter à l'infini dans le jeu des glaces, jusqu'à ce que ses yeux grisés s'aperçussent que la cage ne bougeait point, mais que tout le boudoir vacillait et tournait, emplissant la maison d'une valse rose. Puis, au temps où il jugeait nécessaire de se singulariser, les Hyacinthe avaient aussi créé des ameublements fastueusement étranges, divisant son salon en une série de niches, divertissements tapissés et pouvant se relier par une subtile analogie, par un vague accord de teintes joyeuses ou sombres, délicates ou barbares, au caractère des œuvres latines et françaises qu'il aimait. Il s'installait alors dans celle de ces niches dont le décor lui semblait le mieux correspondre à l'essence même de l'ouvrage, que son caprice du moment l'amenait à lire. Enfin, il avait fait préparer une haute salle destinée à la réception de ses fournisseurs. Ils entraient, s'asseyaient les uns à côté des autres dans des stalles d'église, et alors ils montaient dans une chaire magistrale et prêchaient le sermon sur le dandysme, abjurant ses bottiers et ses tailleurs de se conformer de la façon la plus absolue à ses brefs en matière de coupe, les menaçant d'une excommunication pécuniaire s'il ne suivait pas à la lettre les instructions contenues dans ses monitoires et ses bulles. Il s'acquit la réputation d'un excentrique qu'il paracheva en se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d'or froid, en plantant en guise de cravate un bouquet de parme dans l'échancrure décolletée d'une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, un entre autres renouvelé au XVIIIe siècle, où pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre, et ses massifs tout disposés de cyprès et de pin, le dîner avait été apporté sur une tape noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d'argent semés de larmes. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des boutargues de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes. Et bu dans des verres sombres les vins de la Limagne et du Roussillon, des Ténédos, des Vals de Peñas et des Porto, et savourer après le café et le brou de noix des coasses, des porters et des stouts. Le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte était-il écrit sur les lettres d'invitation semblables à celles des enterrements. Mais ces extravagances dont il se glorifiait jadis s'étaient d'elles-mêmes consumées. Aujourd'hui, le mépris lui était venu de ses ostentations puériles et surannées, de ses vêtements anormaux, de ses embellis de logements bizarres. Il songeait simplement à se composer pour son plaisir personnel, et non plus pour l'étonnement des autres, un intérieur confortable et paraît néanmoins d'une façon rare, à se façonner une installation curieuse et calme, appropriée, aux besoins de sa future solitude. Lorsque la maison de Fontenay fut prête et agencée, suivant son désir et ses plans, par un architecte, lorsqu'il ne resta plus qu'à déterminer l'ordonnance de l'ameublement et du décor, il passa de nouveau et longuement en revue la série des couleurs et des nuances. Ce qu'il voulait, c'était des couleurs dont l'expression s'affirma aux lumières factices des lampes. Peu lui importait même qu'ils fussent aux lueurs du jour insipides ou rêches, car il ne vivait guère que la nuit, pensant qu'on était mieux chez soi, plus seul, et que l'esprit ne s'excitait, ne crépitait réellement qu'au contact voisin de l'ombre. Il trouvait aussi une jouissance particulière à se tenir dans une chambre largement éclairée, seul, éveillé et debout, au milieu des maisons enténébrées et endormies, une sorte de jouissance où il entrait peut-être une pointe de vanité, une satisfaction toute singulière, que connaissent les travailleurs attardés alors que, soulevant les rideaux des fenêtres, ils s'aperçoivent autour d'eux que tout est éteint, que tout est muet, que tout est mort. Lentement, il tria un à un les tons. Le bleu tire au flambeau sur un faux vert. S'il est foncé comme le cobalt et l'indigo, il devient noir. S'il est clair, il tourne au gris. S'il est sincère et doux comme la turquoise, il se ternit et se glace. À moins donc de l'associer, ainsi qu'un adjuvant, à une autre couleur, il ne pouvait être question d'en faire la note dominante d'une pièce. D'un autre côté, les gris fers se renfrognent encore et s'alourdissent. Les gris de perles perlent leur azur et se métamorphosent en un blanc sale. Les bruns s'endorment et se froidissent. Quant aux verts foncés, ainsi que les verts empereurs et les verts myrtes, ils agissent de même que les gros bleus et fusionnent avec les noirs. Restaient donc les verts plus pâles, tels que le vert pan, les cinabres et les lacs, mais alors la lumière exile leur bleu et ne détient plus que leur jaune qui ne garde à son tour qu'un ton faux, qu'une saveur trouble. Il n'y avait pas à songer davantage au saumon, au mel et au rose dont les efféminations contrarieraient les pensées de l'isolement. Il n'y avait pas enfin à méditer sur les violets qui se dépouillent. Le rouge surnage seul le soir, et quel rouge, un rouge visqueux, un lit de vin ignoble. Il lui paraissait d'ailleurs bien inutile de recourir à cette couleur, puisque, en s'ingérant de la centomime nacerandose, on voit violet, et qu'il est dès lors facile de se changer, sans y toucher, la teinte de ses tentures. Ces couleurs écartées, trois demeuraient seulement, le rouge, l'oranger et le jaune. À tout, il préférait l'oranger, confirmant ainsi par son propre exemple la vérité d'une théorie qu'il déclarait d'une exactitude presque mathématique, à savoir qu'une harmonie existe entre la nature sensuelle d'un individu vraiment artiste et la couleur que ses yeux voient d'une façon plus spéciale et plus vive. En négligeant en effet le commun des hommes dont les grossières rétines ne perçoivent ni la cadence propre à chacune des couleurs, ni le charme mystérieux de leur dégradation et de leurs nuances, en négligeant aussi ces yeux bourgeois, insensibles à la pompe et à la victoire des teintes vibrantes et fortes, en ne conservant plus alors que les gens aux pupilles raffinées, exercées par la littérature et par l'art, il lui semblait certain que l'œil de celui d'entre eux qui rêve d'idéal, qui réclame des illusions, sollicite des voiles dans le coucher, est généralement caressé par le bleu et ses dérivés, tels que le mauve, le lilas, le gris de porte, perle, pourvu toutefois qu'ils demeurent attendris et ne dépassent pas la lisière où ils aliènent leur personnalité et se transforment en de purs violets, en de francs gris. Les gens, au contraire, qui hussardent, les pléthoriques, les beaux sanguins, les solides mâles, qui dédaignent les entrées et les épisodes et se ruent en perdant aussitôt la tête, cela se complaisent pour la plupart aux lueurs éclatantes des jaunes et des rouges, aux coups de cymbales des vermillons et des chromes qui les aveuglent et qui les saoulent. Enfin, les yeux des gens affaiblis et nerveux, dont l'appétit sensuel guette des mets relevés par les fumages et les saumures, les yeux des gens surexcités et étiques, chérissent presque tous cette couleur irritante et maladive, aux splendeurs fictives, aux fièvres acides, l'oranger. Le choix de Des Esseintes ne pouvait donc prêter au moindre doute. Mais d'incontestables difficultés se présentaient encore. Si le rouge et le jaune se magnifient aux lumières, il n'en est pas toujours de même de leur composé, l'oranger, qui s'emporte et se transmute souvent en un rouge capucine, en un rouge feu. Il étudia aux bougies toutes ces nuances, en découvrit une qui lui parut ne pas devoir se déséquilibrer et se soustraire aux exigences qu'il attendait d'elle. Ses préliminaires terminés, il tâcha de ne pas user autant que possible pour son cabinet au moins des étoffes et des tapis de l'Orient, devenu maintenant que les négociants enrichis se les procurent dans les magasins de nouveautés au rabais, si fastidieux et si commun. Il se résolut en fin de compte à faire relier ses murs comme des livres, avec du maroquin à gros grains écrasés, avec de la peau du cap glacée par de fortes plaques d'acier sous une puissante presse. Les lambris une fois parés, il fit peindre les baguettes et les hautes plaintes en un indigo foncé, en un indigo laqué, semblable à celui que les carrossiers emploient pour les panneaux des voitures, et le plafond un peu arrondi, également tendu de maroquin, ouvrit tel qu'un immense œil de bœuf, enchâssé dans sa peau d'orange, un cercle de firmament, soit bleu de roi, au milieu duquel montaient à tire-d'aile des séraphins d'argent, naguère brodés par la confrérie des tisserands de Cologne pour une ancienne chape. Après que la mise en place fut effectuée, le soir, tout cela se concilia, se tempéra, s'assit. Les boiseries immobilisèrent leur bleu soutenu et comme échauffé par les oranges, qui se maintinrent à leur tour, sans s'adultérer, appuyés et en quelque sorte attisés, qu'ils furent par le souffle pressant des bleus. En fait de meubles, des Essaintes n'eut pas de longues recherches à opérer. Le seul luxe de cette pièce devant consister en des livres et des fleurs rares. Il se borna, se réservant d'orner plus tard de quelques dessins ou de quelques tableaux, les cloisons demeuraient nues, à établir sur la majeure partie de ses murs des rayons et des casiers de bibliothèque en bois d'ébène, à joncher le parquet de peaux de bêtes fauves et de fourrures de renard bleu, à installer près d'une massive table de changeur du XVe siècle de profonds fauteuils à oreillettes et un vieux pupitre de chapelle en fer forgé, un de ces antiques lutrins, sur lesquels le diacre plaçait jadis l'antiphonaire et qui supportait maintenant l'un des pesants in-folios du Glossarium Mediae et Infirmae Latinitatis de Ducange. Les croisées dont les vitres craquelaient bleuâtres parsemées de culs de bouteille aux bosses piquetées d'or interceptaient la vue de la campagne et ne laissaient pénétrer qu'une lumière feinte, se vêtirent à leur tour de rideaux taillés dans de vieilles étoffes, dont l'or assombri et quasi sourd s'éteignait dans la trame d'un roux presque mort. Enfin, sur la cheminée dont la robe fut elle aussi découpée dans la somptueuse étoffe d'une dalmatique florentine, entre deux ostensoirs en cuivre doré de style byzantin, provenant de l'ancienne abbaye au bois de Bièvre, un merveilleux canon d'église aux trois compartiments séparés, ouvragé comme une dentelle, contint, sous le verre de son cadre, copié sur un authentique vélin avec d'admirables lettres de missel et de splendides enluminures, trois pièces de Baudelaire, à droite et à gauche, les sonnets portant ces titres « La mort des amants », L'ennemi, et au milieu le poème en prose intitulé Anywhere Out of the World, N'importe où hors du monde. Chapitre 2. Après la vente de ses biens, Des Essaintes garda les deux vieux domestiques qui avaient soigné sa mère et rempli tout à la fois l'office de régisseur et de concierge du château de Lourps, demeuré jusqu'à l'époque de sa mise en adjudication inhabitée et vide. Il fit venir à Fontenay ce ménage habitué à un emploi de garde-malade, à une régularité d'infirmier, distribuant d'heure en heure des cuillerées de potions et de tisanes, à un rigide silence de moine claustré, sans communication avec le dehors dans des pièces aux fenêtres et aux portes closes. Le mari fut chargé de nettoyer les chambres et d'aller aux provisions, la femme de préparer la cuisine. Il leur céda le premier étage de la maison, les obligea à porter des pêches au son de feutre, fit placer des tambours le long des portes bien huilées et matelasser leur plancher de profonds tapis de manière à ne jamais entendre le bruit de leurs pas au-dessus de sa tête. Il convint avec eux aussi du sens de certaines sonneries, détermina la signification des coups de timbre selon leur nombre, leur brièveté, leur longueur, désigna sur son bureau la place où il devait tous les mois déposer pendant son sommeil le livre des comptes. Il s'arrangea enfin de façon à ne pas être souvent obligé de leur parler ou de les voir. Néanmoins, comme la femme devait quelquefois longer la maison pour atteindre un hangar où était remisé le bois, il voulut que son ombre, lorsqu'elle traversait les carreaux de ses fenêtres, ne fut pas hostile, et il lui fit fabriquer un costume en taille flamande, avec bonnet blanc et large capuchon, baissé noir, tel qu'emportent encore à Gand les femmes du béguinage. L'ombre de cette coiffe, passant devant lui dans le crépuscule, lui donnait la sensation d'un cloître, lui rappelait ses muets et dévots villages, ses quartiers morts enfermés et enfouis dans le coin d'une active et vivante ville. Il régla aussi les heures immuables des repas. Ils étaient d'ailleurs peu compliqués et très succincts, les défaillances de son estomac lui permettant plus d'absorber des mets variés ou lourds. À 5 heures l'hiver, après la chute du jour, il déjeunait légèrement de 2 œufs à la coque, de rôti et de thé. Puis il dînait vers les 11 heures, buvait du café, quelquefois du thé et du vin pendant la nuit, picorait une petite dînette sur les 5 heures du matin avant de se mettre au lit. Il prenait ses repas dont l'ordonnance et le menu étaient une fois pour toutes fixés à chaque commencement de saison sur une table, au milieu d'une petite pièce, séparée de son cabinet de travail par un corridor capitonné, hermétiquement fermé, ne laissant filtrer ni odeur ni bruit dans chacune des 2 pièces qu'il servait à joindre. Cette salle à manger ressemblait à la cabine d'un navire, avec son plafond voûté, muni de poutres en demi-cercle, ses cloisons et son plancher en bois de pichepin, sa petite croisée ouverte dans la boiserie, de même qu'un hublot dans un sabord. Ainsi que ces boîtes du Japon qui entrent les unes dans les autres, cette pièce était insérée dans une pièce plus grande qui était la véritable salle à manger bâtie par l'architecte. Celle-ci était percée de 2 fenêtres, l'une, maintenant invisible, cachée par la cloison, qu'un ressort rabattait cependant à volonté afin de permettre de renouveler l'air qui, par cette ouverture, pouvait alors circuler autour de la boîte de pitchpin et pénétrer en elle. L'autre, visible, car elle était placée juste en face du hublot pratiqué dans la boiserie, mais condamnée. En effet, un grand aquarium occupait tout l'espace compris entre ce hublot et cette réelle fenêtre ouverte dans le vrai mur. Le jour traversait donc, pour éclairer la cabine, la croisée dont les carreaux avaient été remplacés par une glace sans tain, l'eau et, en dernier lieu, la vitre à demeure du sabord. Au moment où le samovar brûlait, fumait sur la table, alors que pendant l'automne le soleil achevait de disparaître, l'eau de l'aquarium, durant la matinée vitreuse et trouble, rougeoyait et tamisait sur les blondes cloisons des lueurs enflammées de braise. Quelquefois, dans l'après-midi, lorsque par hasard des enceintes étaient réveillées et debout, Il faisait manœuvrer le gelé tuyau des conduits qui vidaient l'aquarium et le remplissait à nouveau d'eau pure, et il y faisait verser des gouttes d'essence colorée, s'offrant à sa guise ainsi les tons verts ou saumâtres, opalins ou argentés, qu'ont les véritables rivières, suivant la couleur du ciel, l'ardeur plus ou moins vive du soleil, les menaces plus ou moins accentuées de la pluie, suivant en un mot l'état de la saison et de l'atmosphère. Il se figurait alors être dans l'entrepont d'un brick, et curieusement, il contemplait de merveilleux poissons mécaniques montés comme des pièces d'horlogerie qui passaient devant la vitre du sabord et s'accrochaient dans de fausses herbes, ou bien tout en aspirant la senteur du goudron qu'on insufflait dans la pièce avant qu'il y entrât, il examinait, pendus au mur, des gravures en couleur, représentant, ainsi que dans les agences des paquebots et des Lloyds, des steamers en route pour Valparaiso et La Plata, et des tableaux encadrés sur lesquels étaient inscrits les itinéraires de la ligne du Royal Mail Steam, packet des compagnies Lopez et Valérie, les frais et les escales des services postaux de l'Atlantique. Puis quand il était là de consulter ses indicateurs, il se reposait la vue en regardant les chronomètres, les boussoles, les sextants et les compas, les jumelles et les cartes éparpillées sur une table, au-dessus de laquelle se dressait un seul livre relié en veau marin, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, spécialement tiré pour lui sur papier vergé, pur fil, trié à la feuille avec une mouette en filigrane. Il pouvait apercevoir enfin des cannes à pêche, des filets brunis au temps, des rouleaux de voile rousse, une encre minuscule en liège, peinte en noir, jetée en bas près de la porte qui communiquait avec la cuisine par un couloir garni de capitons et résorbait, de même que le corridor rejoignant la salle à manger au cabinet de travail, toutes les odeurs et tous les bruits. Il se procurait ainsi, en ne bougeant point, les sensations rapides, presque instantanées, d'un voyage au long cours, et ce plaisir du déplacement qui n'existe en somme que par le souvenir et presque jamais dans le présent, à la minute même où il s'effectue, il le humait pleinement, à l'aise, sans fatigue, sans tracas, dans cette cabine dont le désordre apprêté, dont la tenue transitoire et l'installation comme temporaire correspondaient assez exactement avec le séjour passager qu'il y faisait, avec le temps limité de ses repas, et contrastait d'une manière absolue avec son cabinet de travail, une pièce définitive, rangée, bien assise, outillée pour le ferme maintien d'une existence casanière. Le mouvement lui paraissait d'ailleurs inutile, et l'imagination lui semblait pouvoir aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. À son avis, il était possible de contenter les désirs réputés les plus difficiles à satisfaire dans la vie normale, et cela par un léger subterfuge, par une approximative sophistication de l'objet poursuivi par ses désirs mêmes. Ainsi, il est bien évident que tout gourmet se délacte aujourd'hui dans les restaurants renommés par l'excellence de leurs caves en buvant les eaux crues fabriquées avec de basses vinasses traitées suivant la méthode de M. Pasteur. Or, vrais et faux, ces vins ont le même arôme, la même couleur, le même bouquet, et par conséquent, le plaisir qu'on éprouve en dégustant ces breuvages altérés et factices est absolument identique à celui que l'on goûterait en savourant le vin naturel et pur, qui serait introuvable, même à prix d'or. En transportant cette captieuse déviation, cet adroit mensonge dans le monde de l'intellect, nul doute qu'on ne puisse aussi facilement que dans le monde matériel jouir de chimériques délices semblables en tout point au vrai, Nul doute, par exemple, qu'on ne puisse se livrer à de longues explorations au coin de son feu, en aidant au besoin l'esprit rétif ou lent par la suggestive lecture d'un ouvrage racontant de lointains voyages. Nul doute aussi qu'on ne puisse, sans bouger de Paris, acquérir la bienfaisante impression d'un bain de mer. Il suffirait tout bonnement de se rendre au bain Vigier, situé sur un bateau en pleine Seine. Là, en faisant saler l'eau de sa baignoire, en y mêlant, suivant la formule du codex, du sulfate de soude, de l'hydrochlorate de magnésie et de chaux, en tirant d'une boîte soigneusement fermée par un pas de vis, une pelote de ficelle ou un tout petit morceau de câble qu'on est allé exprès chercher dans l'une de ces grandes corderies dont les vastes magasins et les sous-sols soufflent des odeurs de marais et de porc, en aspirant ces parfums que doit conserver encore cette ficelle ou ce bout de câble, en consultant une exacte photographie du casino et en lisant ardemment le guide Joanne décrivant les beautés de la plage où l'on veut être, en se laissant enfin bercer par les vagues que soulève dans la baignoire le remous des bateaux-mouches rasant le ponton des bains, en écoutant enfin les plaintes du vent engouffrées sous les arches et le bruit sourd des omnibus roulant à deux pas au-dessus de vous sur le pont royal, l'illusion de la mer est indéniable, impérieuse, sûre. Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité même. Au reste, l'artifice paraissait à des esseintes la marque distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps. Elle a définitivement lassé, par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels, l'attentive patience des raffinés. Au fond, quelle platitude de spécialiste confiné dans sa partie, quelle petitesse de boutiquière tenant tel article à l'exclusion de tout autre, quel monotone magasin de prairies et d'arbres, quelle banale agence de montagne et de mer! Il n'est d'ailleurs aucune de ces inventions réputées si subtiles ou si grandioses que le génie humain ne puisse créer. Aucune forêt de Fontainebleau, aucun clair de lune que des décors inondés de jets électriques ne produisent, aucune cascade que l'hydraulique n'imite à s'y méprendre, aucun roc que le carton-pâte ne s'assimile, aucune fleur que de spécieux taffetas et de délicats papiers peints égal. À n'en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a maintenant utilisé la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu où il s'agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l'artifice. Et puis, à bien discerner celle de ses œuvres considérées comme la plus exquise, celle de ses créations dont la beauté est de la vie de tous la plus originale et la plus parfaite, la femme. Est-ce que l'homme n'a pas de son côté fabriqué à lui tout seul un être animé factice qui la vaut amplement au point de vue de la beauté plastique? Est-ce qu'il existe ici-bas un être conçu dans les joies d'une fornication et sorti des douleurs d'une matrice, dont le modèle, dont le type soit plus éblouissant, plus splendide que celui de ces deux locomotives adoptées sur la ligne du chemin de fer du Nord? L'une, la Crampton, une adorable blonde à la voix aiguë, à la grande taille frêle, emprisonnée dans un étincelant corset de cuivre, au souple et nerveux allongement de chatte, une blonde pimpante et dorée, dont l'extraordinaire grâce épouvante lorsque, raidissant ses muscles d'acier, activant la sueur de ses flancs tièdes, Elle met en branle l'immense rosace de sa fine roue et s'élance toute vivante en tête des rapides et des marées. Et l'autre, Langerth, une monumentale et sombre brune, aux cris sourds et rauques, aux reins trapus, étranglée dans une cuirasse en fonte, une monstrueuse bête à la crinière échevelée de fumée noire, aux cirrous bases et accouplées. Quelle écrasante puissance, lorsque, faisant trembler la terre, elle remorque pesamment, lentement, la lourde queue de ses marchandises. Il n'est certainement pas, parmi les frêles beautés blondes et les majestueuses beautés brunes, de pareils types de sveltesse délicate et de terrifiante force. À coup sûr, on peut le dire, l'homme a fait dans son genre aussi bien que le Dieu auquel il croit. Ces réflexions venaient à des esseintes quand la brise apportait jusqu'à lui le petit sifflet de l'enfantin chemin de fer qui joue de la toupie entre Paris et Sceaux. Sa maison était située à 20 minutes environ de la station de Fontenay, mais la hauteur où elle était assise, son isolement, ne laissait pas pénétrer jusqu'à elle le brouhaha des immondes foules qu'attire invinciblement le dimanche le voisinage d'une gare. Quant au village même, il le connaissait à peine. Par sa fenêtre, une nuit, il avait contemplé le silencieux paysage qui se développe en descendant jusqu'au pied d'un coteau sur le sommet duquel se dressent les batteries du bois de Verrières. Dans l'obscurité à gauche, à droite, des masses confuses s'étageaient, dominées au loin par d'autres batteries et d'autres forts dont les hauts talus semblaient au clair de la lune gouachés avec de l'argent sur un ciel sombre. Rétrécie par l'ombre tombée des collines, la plaine paraissait à son milieu poudrée de farine d'amidon et enduite de blanc cold cream. Dans l'air tiède, éventant les arbres décolorés et distillant de bas parfums d'épices, les arbres frottés de craie par la lune ébouriffaient de pâles feuillages et dédoublaient leurs troncs dont les ombres barraient de raies noires le sol en plâtre sur lequel des caillasses scintillaient ainsi que des éclats d'assiettes. En raison de son maquillage et de son air factice, ce paysage ne déplaisait pas à des Hyacinthe. Mais depuis cet après-midi occupé dans le hameau de Fontenay à la recherche d'une maison, jamais il ne s'était pendant le jour promené sur les routes. La verdure de ce pays ne lui inspirait du reste aucun intérêt, car elle n'offrait même pas ce charme délicat et dolent que dégagent les attendrissantes et maladives végétations poussées à grand-peine dans les gravats des banlieues près des remparts. Puis il avait aperçu dans le village ce jour-là des bourgeois ventrus à favoris et des gens costumés à moustaches, portant ainsi que des saints sacrements, des têtes de magistrats et de militaires, et depuis cette rencontre, son horreur s'était encore accrue de la race humaine. Pendant les derniers mois de son séjour à Paris, alors que revenu de tout, abattu par l'hypocondrie, écrasé par le spleen, il était arrivé à une telle sensibilité de nerfs que la vue d'un objet ou d'un être déplaisant se gravait profondément dans sa cervelle, et qu'il fallait plusieurs jours pour en effacer même légèrement l'empreinte, la figure humaine frôlée dans la rue avait été l'un de ses plus lancinants supplices. Positivement, il souffrait de la vue de certaines physionomies. Considérait presque comme des insultes les mêmes paternes ou rêches de quelques visages. Se sentait des envies de souffleter ce monsieur qui flânait en fermant les paupières d'un air docte, cet autre qui se balançait en se souriant devant les glaces, cet autre enfin qui paraissait agiter un monde de pensées tout en dévorant les sourcils contractés, les tartines et les faits divers d'un journal. Il flairait une sottise si invétérée, une telle exécration pour ses idées à lui, un tel mépris pour la littérature, pour l'art, pour tout ce qu'il adorait, implanté, ancré dans ses étroits cerveaux de négociant, exclusivement préoccupé de filouteries d'argent, et seulement accessibles à cette basse distraction des esprits médiocres, la politique, qu'il rentrait en rage chez lui et se verrouillait avec ses livres. Enfin, il haïssait de toutes ses forces les générations nouvelles, ces couches d'affreux rustres qui éprouvent le besoin de parler et de rire haut dans les restaurants et dans les cafés, qui vous bousculent sans demander pardon sur des trottoirs, qui vous jettent sans même s'excuser, sans même saluer les roues d'une voiture d'enfant entre les jambes.